Immersion.
Un reportage de Radio Présence.
Mais comment faire pour être heureux ?
Il est d'abord le premier prix NIEPS. Le prix NIEPS, c'est le prix de photographie équivalent du Goncourt. Enfin, c'est le premier des prix de photographie. Et il est d'ailleurs le seul à avoir eu le NIEPS et le NADAR. Parce que le NIEPS, c'est pour récompenser un ouvrage, et le NADAR, c'est pour récompenser l'œuvre. Donc, il a eu les deux. Quand on lui a annoncé, il me dit « Tu sais ce qui se passe ?» Je viens d'avoir un coup de téléphone de Paris, il paraît que j'ai le prix NIEPS. Mais tu vois comment ils sont, ces Parisiens. Ils n'ont pas pris un type de Paris, parce que si jamais ça se casse la gueule, ce prix, si l'année prochaine il n'y a pas de suite, un petit Toulousain, ça n'a pas d'importance. Il l'a pris comme ça, son premier prix NIEPS.
En 2017, Jacqueline Dieuzède rejoignait dans l'éternité son époux, le grand photographe toulousain Jean Dieuzède. 2 ans auparavant, en 2015, dans le cadre de l'émission Mémoire 2, elle me recevait chez elle, à Toulouse, au milieu de milliers de photographies, de négatifs, de livres, tous admirablement rangés, classés, archivés, dans cette maison qui fut à la fois leur foyer et le studio du photographe Jean Dieuzède, dit Yann. Aujourd'hui, à l'occasion du centenaire de la naissance de celui qui se disait volontiers artisan et non artiste, la mairie de Toulouse, jusqu'au 6 mars, présente au couvent des Jacobins une rétrospective « Jean Dieuzède, 60 ans de photographie ». Et pour ma part, à cette occasion, je vous propose de réécouter de larges extraits de cette précédente émission.
Il est né en 1921 et mort en 2003, donc il avait 82 ans. Il a été élevé par des parents, surtout sa mère. Il a perdu son père, il avait 13 ans. Et ça a été toute sa vie un objectif et un manque. Il avait une admiration profonde pour ce père. Et ça a été un manque puisqu'il ne l'a pas eu près de lui. Par contre, c'est avec lui qu'il a eu ses premiers rudiments de photographie. Parce que le père était un amateur photographe, comme beaucoup de ces hommes qui étaient à cheval du 19e, 20e. Là, il avait son petit laboratoire, il faisait des tirages et il avait initié un petit peu Jean. Et puis après, vraiment le déclic, ça a été au chantier de jeunesse, parce qu'étant de 1921, il est tombé, son service militaire était pendant les années de guerre. Donc il n'y avait plus de service militaire, c'était les chantiers de jeunesse. Et quand il est arrivé là, on a dit, est-ce qu'il y en a un parmi vous qui saurait faire un peu de photographie? Alors il a dit, moi j'ai quelques notions, si vous voulez, je veux bien. Et on lui a donné ce poste, et tout de suite, il a été privilégié, dit-il, parce qu'il avait une chambre à part, il avait les horaires qui n'étaient pas ceux des autres. Enfin, il a commencé à faire des photographies de ses copains, en dehors de ce qui lui était demandé, hein. Quelques photographies de ses copains, quelques photographies des enfants, de ses chefs. Tout ça, c'était, il les donnait, à côté de ça, il en vendait quelques-unes. Alors, tout ça, c'est très bien arrangé. Et il a surtout donné satisfaction à ses chefs pour le journal. Alors, il était, à ce moment-là, étant donné la mort de son père, qui était mort en activité à Bordeaux. Il avait un parrain, mais qui était à l'époque, puisqu'il était dans les postes, mon beau-père. Son parrain était le meilleur ami de mon beau-père, mais il était à ce moment-là nommé dans le Var. Et quand ma belle-mère s'est tournée vers lui, puisque à ce moment-là, il n'y avait rien d'organisé pour les retraites, ni rien de tout ça. Donc quand elle s'est tournée vers lui en lui disant « Est-ce que vous pouvez pas m'aider à trouver un travail pour Jean ?» il lui a dit « Écoutez, si vous restez à Toulouse, moi j'ai perdu tous les contacts avec Toulouse, je ne peux rien. Alors venez par ici et je pense qu'on pourra se débrouiller. » Donc il était dans le Var, quand qu'il y a eu ces dates de chantier de jeunesse. Et il a fait ces chantiers à Nyons. Et Évidemment, ça a très bien marché, ses photos étant très bonnes. On lui a dit, mais attendez, maintenant on va faire plus que notre journal ici, on va attaquer le journal régional. Et il est devenu le photographe du journal régional qui finalement, je crois, était à Marseille. Ça s'appelait Jeunes de Provence ou quelque chose comme ça. Et vers 1944, on l'avait nommé responsable de la partie photo des chantiers de jeunesse à Toulouse.
Le 19 août 1944, Toulouse se soulève. Jean Dieuzède rend compte de la libération de sa ville. Son magnifique portrait, place du Capitole du général de Gaulle, lui vaut alors une reconnaissance publique.
Et là, il s'y est trouvé au moment des journées de la libération de Toulouse. Et il a été pratiquement un des seuls. Il y a très très peu de photos de cette... Mais ça a failli lui coûter très cher, puisqu'on l'a aligné contre un mur avec mitraillette sur les tempes et sur le ventre, en disant « il va nous trahir ». Et on lui a pris toutes ses pellicules, à l'exception de deux ou trois, qui sont tombées de la poche de son pantalon, qui était trouée, dans le fond du pantalon. Les pantalons de chantier, c'était des golfs, enfin on appelait ça, qu'on prenait dans les chaussettes. D'accord. Voilà. Donc les photos de la libération de Toulouse que nous avons, c'est le récupérer de ces trois ou quatre pellicules qui étaient tombées dans sa poche. Les autres ont tout été brûlées. Voilà. Donc, si vous voulez. Alors là, c'est l'intervention de quelqu'un qui l'a libéré, quelqu'un qui a dit « mais laissez-le, je le connais ». Il l'a fait sortir par une porte dérobée et après, bon, il a continué le lendemain de faire ses photos de libération de Toulouse. Et petit à petit, si vous voulez, il a gardé ce poste donc, de responsabilité des chantiers de jeunesse à Toulouse. Et après, il se trouve que beaucoup de ces chefs de chantier, qui ont fait d'ailleurs beaucoup de résistance parallèlement à leur poste, se sont retrouvés à Paris dans des postes de responsabilité, et en particulier l'un d'eux, qui s'appelait Jean Peyrade, et qui est devenu le directeur de la documentation française. Et la documentation française, ce sont les services du Premier ministre. Et en plus, c'est devenu important maintenant, mais c'est un éditeur qui a fait énormément qui a publié énormément de choses très intéressantes, surtout sur l'éducation et tout ça. Donc, ces chefs de chantier, quand ils ont eu besoin de photographie dans la région, il s'est retourné vers mon mari. Et il a été un des premiers à faire les photos sur les pétroles de Saint-Marcet qu'on venait juste de découvrir. Et c'est la documentation française qui a publié le premier travail sur ce... Voilà. Et ça a été la boule de neige.
En moins de 10 ans, le photographe local acquiert une notoriété qui dépasse les frontières. Fasciné par les avancées technologiques, il répond à de nombreuses commandes d'Air France ou d'industriels. À travers ses clichés, il nous fait comprendre comment, en partant du réel, il est possible d'atteindre des visuels à la limite de l'irréel, du registre poétique et onirique.
Quand il allait par exemple au pétrole d'Aquitaine à Saint-Gaudens, il y est allé aussi avec des rédacteurs ici de la Dépêche du Midi par exemple pour faire un article là. Et là, c'est le début de ce qui a été déterminant après pour son militantisme en faveur de la photographie. Là, quand il arrivait, il demandait à voir le directeur. Alors on disait, monsieur un tel journaliste, vous entrez au bureau de monsieur le directeur, le photographe vous attendait dans le couloir. Bon, alors il attendait dans le couloir. Et puis après, il faisait des photos. Et quand le reportage se faisait, tout ça marchait très bien. Après, il envoyait au directeur de l'usine, « Monsieur, vous avez eu la gentillesse de me permettre de travailler il y a 8 jours chez vous. J'ai pu faire le travail que voici. Ça me fait plaisir de vous l'offrir. » Bon, quand il avait besoin, ce directeur, de photos pour lui, pour sa publicité, hop, on revenait vers Dieuzède et on lui demandait. Alors, petit à petit, ça a été une vraie boule de neige, si vous voulez, comme il avait un œil quand même exceptionnel et que c'était toujours du très bon travail, et qu'il était super exigeant pour la qualité du travail. Ça, je peux vous dire qu'il en a formé des jeunes et des apprentis et des tireurs. Et c'était, il ne fallait pas le louper, hein, il fallait le faire comme il faut. Donc, si vous voulez, ça fait très très rapidement boule de neige. Et il est devenu, parce que bon, Le rêve d'un photographe, c'est d'être publié dans des beaux livres. Hein. Presque tous les photographes, c'est ça. Mais avant d'en arriver là, il faut vivre. Et pour vivre, c'était cette photo industrielle qui nous faisait vivre parce que c'était beaucoup plus régulier et que c'était quand même des chiffres nettement supérieurs. Alors, il est devenu le photographe de... À l'époque, ça s'appelait Sud Aviation. Il est devenu le photographe de Lodia, il est devenu le photographe de Job, il est devenu le photographe évidemment des pétroles d'Aquitaine, la SNPA. Donc si vous voulez, on avait un noyau déjà de clients importants qui nous aidaient à boucler les budgets et à payer. Nous étions quand même arrivés à être 7 dans l'atelier. Il avait 2 secrétaires, une secrétaire vraiment et l'autre qui faisait du classement. Et puis il avait au tirage 2 tireurs, 2 apprentis. Voilà, on était quand même 7. Et moi, qui ai toujours travaillé avec mon mari depuis le jour de notre mariage, puisque notre voyage de noces, nous l'avons fait dans les mines de Carmaux.
Ah oui.
Voilà, il m'a amené le lendemain des noces. Nous étions dans les mines de Carmaux, où l'on cherchait partout la plus petite paire de bottes qu'ils avaient. Et malheureusement, elles étaient encore énormes. Et je soulevais la botte à chaque pas, c'était terrible.
Jean Dieuzède est un travailleur inlassable, acharné.
Travailler avec l'époque, ça s'appelait un Rolleiflex. Mmh. C'est un appareil qui donnait une image carrée de 6 sur 6 centimètres. Et il y avait 12 images dans la bobine. Il disait d'ailleurs avec Doineau, tous les deux, c'est à la 13e qu'il se passe quelque chose. Mais c'était vrai. Souvent, ils l'ont regretté de ne pas avoir la 13e. Mais avec cet appareil, si vous voulez, il arrivait de reportage. On développait rapidement. Les laboratoires étaient toujours en état prêt à développer. On séchait quelquefois. Normalement, c'était dans une armoire la nuit. On suspendait le film et ça séchait jusqu'au lendemain. Mais combien de fois, puisqu'il a beaucoup travaillé avec la presse, il a été journaliste surtout. À ses tout débuts, c'est par le journalisme aussi qu'il a fait sa réputation. Donc, il séchait artificiellement. Et ça, moi, j'en étais toujours bleu. Il passait le film dans de l'alcool rapidement. Et avec une allumette, il flambait. Mais sans brûler le film. Je ne sais pas comment il faisait, mais c'était sec. Et donc, si vous voulez, il choisissait immédiatement au compte-fil et tout ce qui était un peu médiocre ou qui, où il y avait quelqu'un qui avait bougé ou passé devant l'objectif ou comme ça, il écartait. Oui. Après, le lendemain matin, on tirait les images qu'il avait choisies et ça partait dans la journée. Sauf si, par exemple, un accident de chemin de fer à Montauban. Il fallait les photos à Paris le lendemain matin. Alors, il existait un bellinogramme, qui est l'ancêtre du fax, si vous voulez. Et on faisait le tirage rapidement, et on passait la photographie au bellinogramme, ce qui veut dire qu'elle était à Paris dans le quart d'heure qui suivait. Ou bien, quand il y avait 20 ou 25 photos, on faisait une enveloppe que l'on portait à la gare. Au train pour Paris, il y avait un train qui partait à minuit, en hors-sac, c'était la formule, ça s'appelait hors-sac, c'est-à-dire qu'elle ne rentrait pas dans les sacs postaux, elle était affranchie un petit peu plus cher qu'une enveloppe ordinaire, mais il fallait que quelqu'un vienne la retirer sur le quai à l'arrivée du train. Alors ça, on rentrait en relation avec le journal en question, qui avait des petits jeunes qui allaient au train et qui prenaient, il y a d'ailleurs eu beaucoup d'histoires, parce que il y avait quand même déjà une concurrence et quelquefois il est arrivé à certaines de prendre l'enveloppe de l'autre. Voilà. Mais non, nous, ça nous est jamais arrivé. Mais ça veut dire que la prise de vue faite à 6 heures du soir, développée, tirée en suivant, portée à minuit à la gare, la photo était le lendemain matin sur le bureau parce qu'à l'époque, on ne scannait pas, il fallait avoir un vrai tirage que l'on photographait, c'est-à-dire on en faisait une gravure qui s'imprimait après sur le journal. Voilà. Donc, si vous voulez, on allait très vite. Quelquefois, je dis, vous n'avez rien gagné, mais rien gagné dans le temps, parce que bon, d'abord, c'était de bonne qualité, ils avaient le bon tirage, tandis que les scans maintenant, c'est tantôt oui, tantôt bien, ben voilà.
L'expérience photographique de Jean Dieuzède est si variée qu'il est difficile de résumer les thèmes traités par cet infatigable créateur. À l'instar de nombreux photographes, il apparaît au regard de toutes ces démarches que le but de Jean Dieuzet n'est pas de produire et de défendre ces images, mais de sensibiliser le spectateur à ce que le monde nous donne à voir dans toutes les qualités de la création photographique.
Quand on voit l'accumulation de clichés qu'il a, il avait toujours son appareil avec lui, toujours. Et rarissime, mais quand il lui arrivait de ne pas l'emporter, alors d'abord il se tournait vers moi. « Tu n'as pas pris l'appareil ?» Je lui dis « Attends, l'appareil c'est toi, hein, c'est pas moi. » « Bon, ben tu vois, tout ce que je vais voir aujourd'hui, je ne pourrai jamais le transmettre. » C'était ça, parce que ce qu'il allait voir aujourd'hui, ça ne se reproduirait jamais, et donc il ne pourrait pas le transmettre. Donc il se sentait effectivement un passeur, et chargé de mission. Mais c'est pour ça qu'on a des images de toutes sortes, et de tous les milieux, de tout. En plus, il était très curieux de tempérament, donc il s'intéressait à tout. Il n'avait pas sélectionné une chose ou une autre, non, tout l'intéressait. Et en plus, je le racontais l'autre jour à quelqu'un, bon, il était curieux, mais il était aussi vif, intelligent. Donc, si on lui expliquait des choses un peu scientifiques ou comme ça, il comprenait, hein, il comprenait très bien. Et là, il me disait, il faut qu'une photo en dise aussi long que 1000 mots. Donc, il fallait que la photo, ce soit une synthèse. Et il a toujours travaillé dans cet esprit-là. Quand il faisait des photos scientifiques, par exemple, il faisait la photo qu'on lui demandait. Bon, il avait d'abord acheté, quand ça a paru, un Polaroid. Vous savez que le Polaroid donne la photo instantanée. Et ça, c'était pour convertir les directeurs d'usine, ou comme ça, pour lui laisser faire ce qu'il avait envie de faire. Parce qu'on lui disait, vous allez photographier cette salle, monsieur. Il disait, je suis tout à fait d'accord, mais il faudra m'enlever cette échelle dans ce coin, et puis cette pile de carton de l'autre côté, parce que ça, c'est pas beau. « Oh, mais ça se voit pas !» répondait-on, « ça se voit pas !» Alors, il faisait son Polaroid, il la remettait sous le nez. Et après, « Ah, vous avez raison, monsieur Dieuzet, oui, je crois qu'il faut qu'on l'enlève. » Donc, si vous voulez, c'était son avocat, le Polaroid. Et il faisait la photo qu'on lui demandait, il faisait la photo qu'il avait envie de faire. Et si, par hasard, il se trouvait dans l'ensemble du reportage qu'il ramenait, des photos qui n'avait rien à voir, ni avec la photo scientifique, ni avec la photo documentaire, mais qu'il avait vu en passant. C'était souvent des photographies très graphiques, d'un enchevêtrement de fils, ou des courbes en spirale, ou des choses comme ça. Il le faisait pour lui. Alors, évidemment, ça n'était pas livré au client, mais c'était accumulé et il a comme ça un fond très très important d'images que nous appelions nous, les secrétaires et moi-même, les artistiques, et lui n'aimait pas ça. Il disait non, je ne veux pas que ça s'appelle comme ça. Mais si vous voulez, c'était fait pour personne, c'était son expression à lui, c'est vraiment. Parce qu'il disait je suis un artisan, mais je ne suis pas un artiste, je suis un artisan. Il se maintenait là.
C'est un très beau terme, artisan.
Oui, oui, il aimait beaucoup au sens premier, et il aimait beaucoup ce terme-là. Et de même qu'il ne supportait pas que l'on dise « Oh, cet artiste a créé ou est créateur de ci ou de là ». Il m'a dit « Attends, on crée rien du tout. On transforme peut-être, on valorise, mais on ne crée pas. C'est pas vrai. » Alors ça, chaque fois, il accrochait, oui, comme il y avait. Voilà, il avait une éthique très personnelle.
En feuilletant un catalogue.
Voilà des photos faites en cours de reportage. Vous allez voir. Et c'est un reflet, une eau calme. C'est le reflet parfait, vous voyez.
Ah oui.
C'est un reflet. Alors, d'ailleurs, vous voyez par exemple, ici, voilà ici, l'équivalent, voilà, un peu, c'est pas le même, hein, mais c'est un peu l'équivalent. Mais par contre, il la présente verticale, alors ça change tout. Alors après, qu'est-ce qu'il y a? Ça, c'est Arnaud Bernard, au petit matin, les poireaux qui se baladent dans la rigole.
Je voyais des boutons, voilà.
Non, c'est des petites pommes et des queues de poireaux, des petites pommes. Ça, c'était le repas devant la télévision, desséché, où il n'y a rien, on a des trucs dans l'assiette, et bien voilà. Alors voilà, un sol. Ça, c'est une série qu'il a faite qui s'appelle Les Chimigrammes. C'est tout à fait différent. C'est du papier photographique impressionné par des... Voilà. Alors, par exemple, là, des joncs cassés. Mais bon, ça lui fait penser à Artaud.
Et la, la lumière, toujours.
Voilà. Ah, mais ça, toujours. Ça, c'est ce qui comptait le plus. Je regardais s'il y avait par hasard une photo de science, là, mais je ne me rappelle pas. Peut-être pas. Alors, ça, oui. Ça, c'est à la petite. Et ça, c'est de l'eau, c'est de l'encre dans de l'eau. Non, c'est de l'encre dans de l'eau, c'est aussi pris comme ça. Ça, c'est des frites dans une poêle, mais calcinées. Ça, c'est moi. J'avais une poêle de frites sur le feu, un coup de téléphone qui a duré, je ne sais pas combien de temps, quand je suis revenue. Il m'a dit, tu ne me les bouges pas, je ferai quelque chose.
Missionnaire de la photographie, selon Jean Ribou, Jean Dieuzet est un ardent défenseur de cet art. C'est lui qui, à Toulouse, ouvre ce qui sera une première en France, une galerie permanente de photographie, la galerie municipale du Château d'Eau.
Quand la municipalité, je pense que c'était de Pierre Baudis, a ouvert le Château d'Eau, du temps de M. Ourliac à la culture, parce que mon mari les a travaillés pendant plusieurs années pour arriver à avoir ce château d'eau. Parce qu'il voulait absolument la photo au musée, je vous l'ai dit, c'était un de ses combats. Alors, il avait réussi, avec ce Cercle des Douze, qui était quand même assez prestigieux dans le monde de la photo, à exposer au petit cloître du musée des Augustins. Le Cercle des Douze avait fait une belle exposition, là. Et il avait dit à M. Ourliac, « Mais M. Ourliac, donnez-nous quelque chose au musée, là, un département photo. » Alors il lui dit, « Mais écoutez, le musée rentre en travaux. » « Eh bien voilà, après vous... » »« Mais il y en a pour 12 ans. » « Ah non, mais j'attends pas 12 ans. Hein. » Non. Et c'est là qu'il s'est mis en quête, qu'il a trouvé ce château d'eau, qu'on devait démolir. Hein. On le doit à mon mari de l'avoir gardé. Parce que la municipalité lui disait, « Mais enfin, Dieu sait, où est-ce qu'on en est? Comment ça se fait que... » et le gars qui devait le démolir était sous pression. « Comment ça se fait que c'est pas encore démoli? Mais comment... » Voilà. Et c'est mon mari qui l'a sauvé, hein, le château d'eau. Et alors, bon, il était devenu quand même... le porte-parole des photographes, parce qu'il a défendu, il a été un militant de la photo, comme il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a pas eu et il n'y en a plus. Et c'est vrai qu'il mettait... Alors, son accent méridional, un petit peu, c'est à la fois, vis-à-vis des Parisiens, c'était à la fois sympathique, mais aussi, j'allais dire, ça le déclassait d'un échelon en général, hein. Parce que comment voulez que quelqu'un de Toulouse ait de bonnes idées? Non, c'est des pecnots, c'est des paysans, voilà. On nous a d'ailleurs demandé, ça c'est une autre petite parenthèse, quand on faisait des photos des châteaux cathares, il a beaucoup lancé ces châteaux cathares au moment où on a commencé les premières photos, peut-être en 53 ou 54. Alors, c'était vraiment le début, début. C'était M. Déodat Rocher, et voilà, il a pas mal aidé au lancement parce qu'il a fait des photos magnifiques de ces châteaux cathares. Eh bien, on nous demandait de Paris, est-ce que vous pouvez nous envoyer aussi le mobilier des châteaux et peut-être les gens qui arrivent en gare avec les paniers et les têtes d'oie qui sortent du panier. Voilà, Paris, comment ils prenaient les tout ça. Alors, c'est vrai qu'il a voulu rester à Toulouse et il dit, ça m'a coûté très cher. Et c'est vrai, ça lui a coûté très cher. Parce que je peux vous dire que s'il avait été à Paris, il aurait largement la réputation d'un Doisneau ou d'un Willy Ronis. C'est parce qu'il a fait le même travail qu'eux, c'est-à-dire aussi sensible et aussi bon de qualité, de sentiments humains comme peut l'être Doisneau ou Ronis. Mais il a en plus ces fameuses artistiques dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont son expression personnelle. Bon, il s'est allé quand même jusqu'à faire des tapisseries. D'après des photos, il avait fait une photo d'un écran à la Faculté des sciences de Toulouse. C'était le résultat d'une équation sur l'écran. Il a trouvé ça tellement beau qu'il a dit « Oh, ça, je le photographie ». Il l'a photographié et il en a fait après une super tapisserie qui est toujours au LAS, dans les bureaux du LAS, et voilà. Donc, je veux dire que... il avait ce sens artistique en lui. Et ça, je ne sais pas si Doisneau et les autres, Bouba, oui, étaient très sensibles. Mais il n'y en a aucun d'abord qui a fait la production qu'il a fait lui. Parce que c'est... Bon, je dois dire qu'il n'y avait pas de soirée, pas de week-end, pas de vacances. Les vacances, il y en a eu quand les enfants ont eu entre 5 et 12 ans et que quand même, on ne pouvait pas les maintenir à Toulouse tout l'été. Mais ce n'était pas un travail forcé. Ça lui plaisait tellement, c'était sa passion. Donc, si vous voulez, ça a été fait au fil des années et puis ça s'est accumulé et voilà. Et puis il a surtout aussi beaucoup travaillé pour la roman, avec les éditions du Zodiac. Il démarrait à l'époque, le Zodiac, le père Angelico démarrait. Bon, et on lui a demandé de remplacer au pied levé un de ses camarades qui avait promis de faire un livre sur la Suisse, et puis qui a eu un accident, qui a eu des problèmes de colonne vertébrale fracturée, impossible d'assurer le travail. Et comme c'était un bon ami de mon mari, il lui a téléphoné en lui disant « Est-ce que tu peux me remplacer ?» Et bon, il a accepté, mais il m'a dit « Les pauvres pères, je les ai fait marcher, tu sais. » Parce qu'on travaillait le jour, la nuit on se déplaçait, voilà, mais bon. En plus, moi j'ai une sœur bénédictine. Alors, bon, il y avait une bonne volonté spéciale pour aider ce père Angelico qui démarrait sa collection et qui a fait un travail de bénédictin. Hein. Cet art romain, c'est un merveilleux travail.
Premièrement, lui, il avait redonné cher à la
pierre. Ah oui, complètement. Et alors, il dit que ça l'a appris beaucoup, l'art roman. Ça lui a appris beaucoup. Parce qu'il disait, par exemple, que le chapiteau de Saint-Jean, presque toutes les églises où il y a un chapiteau de Saint-Jean, il est éclairé le 24 juin. Le soleil le frise ce 24 juin. Ceux de Noël, pareil. Il y a un rayon de soleil, les nativités. Et ça, c'est le père Angelico qui lui a fait observer, si vous voulez. Mais c'est vrai. Parce que bon, c'était les livres d'images, hein, les fresques de l'époque et tout ça. Alors bon, mais il a eu beaucoup de plaisir à travailler pour cet art roman. Il a fait, lui, il a eu le prix NEPS avec la Catalogne romane.
Je n'étais pas sa muse, me confiait son épouse Jacqueline au terme de cette rencontre. J'essaie juste et non sans mal de faire survivre sa mémoire. La mémoire de celui qui voulait être pilote et qui fut photographe. Et qui pendant plus d'un demi-siècle, de Tel Aviv à Montréal, en passant par Cologne, Paris, Reykjavik, New York, Valence ou Istanbul, posa son regard sur le monde.